L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Alors, ce 10 février 2024, au Gazette Café, de 14h30 à 17h30, a eu lieu le 7e Gazette Africa. Le thème, la citoyenneté des migrants. Nous recevions pour cette occasion Adam Idrissou, président de l'association Bénin Solidaire Sans Frontières, jeune chercheur en anthropologie sociale et sociologue et en sociologie Master 2, anthropologie et culture et identité mondialisation à Paul-Valéry 3. Adeline Nicoladze, bénévole à la CIMAD auprès des migrants pour le droit d'asile et de séjour, et José Fleiss, professeur de français, qui témoignait en tant que aussi ancien migrant. Les témoignages et interactions ont eu lieu ensuite avec la salle. Et c'est un événement Radio FM+, organisé et animé par Marie-Claude Siakézak et Jérémy Ziri, qui sont animateurs de l'émission « L'Afrique dans tous ses états » sur FM+. Et ceci avait lieu, cet événement avait lieu en collaboration avec le Gazette Café. Donc, je vous propose d'écouter une partie de cette rencontre, puisque nous avons dû la fractionner en trois parties. Donc, bonne écoute et à bientôt.
Donc, vous voyez un peu sur la question que monsieur veut nous poser. On y a passé presque un quart d'heure. Parce qu'il y a, et puis là, voilà.
Bon, ouais, merci à l'équipe d'avoir organisé cette rencontre. Hein. En venant ici, je pensais avoir une conférence sur les phénomènes migratoires. Quand on entend CIMAD, évidemment, on se dit le droit, l'immigration, où on en est. En plus, on est sous la loi de l'immigration là, donc je suis complètement à côté. Bon, bref, j'étais venue pour ça. Mais maintenant, les expériences m'intéressent parce que moi-même, je suis issue de ces expériences-là. Mais tout ce que je voulais souligner, c'est que c'est le problème de l'immigration et des immigrés. Et puis, comme on est en train de discuter là, je vois que ça revient. On a l'impression que l'Afrique, ça doit être pareil. Il y a les Afriques. Et puis, il y a des personnes. On est venu pour des raisons différentes. Autant c'est des histoires. Pourquoi on veut rester? Est-ce qu'on veut rester? Est-ce qu'on veut pas partir? Et est-ce qu'on est parti? C'est hyper personnel. C'est des parcours individuels. Mais moi, je viens de faire, je suis arrivée, j'ai fait beaucoup plus. Je suis arrivée à 18 ans, je suis encore là. Mais je ne pouvais pas vivre ici sans idée de retour. Ça, je ne peux pas. Donc, je pars souvent, je suis en lien, j'envoie de l'argent peut-être, mais personne ne me le demande. Parce que c'est le fait aussi, ça vient de nous. Nous, on se dit, ben voilà, pour se faire légitimer, pour se dire, ben voilà, on est là, on est obligé, on part avec des valises de cadeaux qui ne servent à rien. Mais ça, c'est notre culpabilité. Des fois, il ne faut pas du tout mélanger les choses. Il y a des personnes qui viennent de familles hyper bien installées. Moi, je connais même des gens, c'est les familles qui leur envoient de l'argent pour être ici. Hein. Il y a ça dans l'autre sens. Moi, je rencontre toutes sortes de comportements, de pratiques. Mais pour dire, il y a, nous ferons partir. Il faut vous dire que partir, ok, on part, on est d'accord, on va toujours chercher quelque chose. Comme dit Jérémy, on va chercher un ailleurs meilleur. On ne part pas parce qu'on se dit, je pars en galère, je vais chercher. Non, on est des êtres humains qui recherchent nous recherchons du plaisir. Bien sûr, on va pour le mieux et on reste quand on peut. Il y a des personnes qui restent par contrainte, il y a des personnes qui restent parce qu'ils ont trouvé leur place, comme José. Il y a des personnes qui ont trouvé leur place, mais qui ne peuvent pas imaginer cette place sans avoir un fil avec leur pays, leur propre pays. Moi j'ai besoin de mon, c'est pas forcément du patriotisme, mais c'est parce que tout mon patrimoine génétique, malgré tout ce temps que je suis ici, je ne peux pas le dissocier de ce que j'ai vécu jusqu'à mes 10 ans, j'en sais rien, ou mes 3 ans. Je reste en lien et je crois que je resterai en lien. Et c'est quelque chose que j'ai transmis à mes enfants, puisque mes enfants, plus que moi, sont en lien avec le Rwanda encore. Moi, je peux m'en passer, mais j'ai certains de mes enfants qui ne peuvent pas s'en passer. Donc, pour dire juste, pour conclure, que l'immigration, c'est une histoire, ça s'est toujours passé dans le monde, ça se passera, et on n'empêchera jamais. Moi, c'est un rêve. Moi, je vois des jeunes au Rwanda, par exemple, Quel jeune qui ne veut pas partir de là où il est à 20 ans? Quel jeune, comme les jeunes d'ici? Ici, ils peuvent aller en Australie, ils ont des visas, ils peuvent aller partout. Mais les jeunes de chez nous, ben voilà, si un jeune rêve trop de partir, il va prendre le bateau, il va être un migrant, comme on le voit ici, mais pas forcément pour des problèmes économiques ou autres, de guerre, mais parce que l'envie d'ailleurs, tout simplement. Merci.
C'est une liberté, c'est surtout une liberté, déjà.
Ouais, ouais, voilà.
Il y a 20 ans, on a besoin de liberté.
OK. Alors, OK, là-bas.
Je voulais juste ajouter un truc et raconter une petite histoire par rapport au... Moi, je suis malienne et je suis très fière parce que je sais que le Mali est aujourd'hui amèrement accepté ici. Et j'ai beaucoup d'amis français qui sont au Mali, qui sont venus pour le travail, mais qui se sont fait adopter par ce pays. Ils ont eu la chance d'avoir des terrains, ils ont construit leur maison. Malgré la guerre qu'on chante ici en France, ce n'est pas des gens qui sont prêts à rentrer en France. Et il y en a plein comme ça. J'ai plein de collègues jeunes français qui se sont installés au Mali. Ils étaient mal vus ici, ils ne se sentaient pas ici. Ils ne se sentaient vraiment pas bien ici. C'est des jeunes comme moi et on a le même âge. Ils sont allés s'installer au Mali. Ils sont devenus des grandes personnes grâce au changement de territoire, au changement de lieu. Donc, moi, je pense qu'on est à peu près dans le même truc. Mais il y a souvent des questions qui sont des questions d'ignorance. Voilà, c'est des questions d'ignorance. Moi, je suis arrivée en France par le biais du mariage. J'ai eu, je ne sais pas si c'est une chance ou autre, mais voilà, la vie m'a rendue amoureuse d'un jeune Français, ce qui n'était jamais mon rêve. J'ai fait toute ma jeunesse, je ne suis jamais tombée amoureuse d'un Européen déjà, parce que j'avais un caractère qui n'était pas facile, donc j'avais du mal. Mais voilà, la vie fait des choses. Merci. Donc voilà, ce monsieur, il m'a amené en France. Et voilà, quand on est arrivé ici, malheureusement, il était malade, il est décédé, il m'a laissé ici. Mais quand on me dit que voilà, que je suis immigrée ou autre chose, c'est quelque chose dont souvent je n'ai pas de réponse en fait. Et cette question qu'on vient de poser à José, je reçois la même question. Vous rentrez quand même souvent? J'ai dit, moi, je suis tellement fière de chez moi. Je ne peux pas m'en passer pour ne pas aller au Mali. C'est impossible. Donc, je suis entre deux, en fait. Je suis entre le Mali et ici. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est là où la vie nous conduit, qui est chez nous, en fait.
Ouais.
Voilà.
D'accord.
Là où la vie nous conduit, c'est là chez nous. Aujourd'hui, quand je discute avec Yves Guémard au Mali, il est tellement fier d'être malien aujourd'hui, malgré sa nationalité française. Mais Yves n'est pas prêt à venir en France, même si le Mali va se brûler sur lui. Donc, il y a plein de cas comme ça, en fait, pour vous informer que, voilà, chacun va se retrouver là où c'est mieux pour lui, en fait.
En tout cas, merci de ton témoignage. Merci de ton témoignage. Et,
oui, je voulais juste rajouter ce que disait madame. C'est ça, en fait, on n'est pas différents les uns des autres. On est tous pareils. Quand on se déplace, eh ben, on va quelque part. Et après, selon notre personnalité... On a envie de retourner de là où on vient, de temps en temps, ou pas du tout. En France, c'est pareil. En France, il y a une espèce de manie. Quand on rencontre quelqu'un, on lui dit « mais t'es d'où ?» Alors, il va dire « je suis de Limoges, je suis d'Orléans, je suis bon ». Et très souvent, d'ailleurs, les gens disent de là où ils sont en fonction de là où ils ont été à l'école. On remarque ça. Hein. On a fait le collège à Limoges, on va dire « je suis de Limoges », même si ça fait 40 ans qu'on vit à Paris. Et donc, c'est pareil pour tout le monde. Il y a des gens qui ont envie de retourner à Limoges, voilà, parce qu'ils se sentent bien, parce que voilà, ou alors ils vont y retourner quand ils sont très vieux. Parfois on voit ça. Les gens quand ils prennent leur retraite, certains disent ben je vais retourner dans mon village, voilà. Et puis d'autres, comme vous, disent non, moi je suis parti, je suis très bien là où je suis, j'ai fait ma vie là, c'est super, je me sens bien. Et je crois que le droit de chacun à se sentir bien là où il est, sans qu'on lui demande perpétuellement d'où il est et est-ce qu'il y va de temps en temps. Et voilà, parce que cette question de « tu vas voir ta famille », mais nous aussi on l'a. Et tu vas voir ta famille, ah bon, et ils n'habitent pas près de chez toi, et alors c'est comment? Bon, voilà, le droit de chacun de vivre où il a envie de vivre, et en se disant bah, « c'est comme ça, je suis bien là », je crois que là-dessus, on est tous pareils.
Tout à fait. On te remercie de ton dernier témoignage. Il y a une question de monsieur dans le fond de la salle.
Donc, bon, je suis aussi, je fais partie de la CIMADE aussi.
Ah d'accord, okay.
Et aussi du réseau Éducation sans frontières qui accueille surtout les mineurs et les jeunes majeurs sur Montpellier. Alors juste pour dire que quand nous on intervient dans les lycées, une des questions qu'on pose c'est qui dans la classe a au moins un grand-parent, un arrière-grand-parent étranger. Et le minimum qu'on ait trouvé, c'est 40%. Et dans votre lycée, c'est 100%, bien sûr. Dans tous les lycées professionnels où on va, d'ailleurs, c'est presque 100% aussi. Hein. Et d'ailleurs, dans ces mêmes lycées professionnels où se trouvent beaucoup de, on accueille beaucoup de jeunes issus de l'immigration, eh bien, ces jeunes-là, tous les profs, ils en veulent. Parce que c'est des jeunes qui veulent apprendre. Ils viennent ici pour apprendre pour un métier, pour apprendre le français, et qui sont ultra volontaires, et qui équilibrent des classes qui sont quelquefois un peu difficiles. Hein. Et donc, justement, c'est toute la richesse qu'il y a là-dedans, cette volonté de vouloir sortir, de vouloir apprendre le français, de pouvoir travailler, retourner ou pas dans son pays, c'est une question personnelle. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des positions assez différentes là-dessus. Mais c'est vrai que quand on pose la question à qui tu viens, c'est parce qu'on a une peau qui n'est pas blanche. Hein, parce que moi, j'ai aussi des ancêtres qui ne viennent pas de France, mais on ne m'a jamais posé la question d'où je venais. Donc, c'est quand même. On a fait. Il y a des petits films assez intéressants dans la CIMAD, d'ailleurs, qui s'appellent D'où tu viens. Hein, et c'est une question comme ça. C'est une entraîneuse de football qui est africaine, et on lui demande d'où tu viens. Ben, je viens du gymnase, je viens de voilà. Donc c'est assez amusant parce que c'est montrer que, après tout, on est français parce qu'on est blanc. Non, c'est quand même une sacrée question qu'on doit se poser. Hein.
Juste pour vous dire qu'il y en a qui sont vraiment malins. Ils diront, et vous demanderont jamais d'où vous venez, quelle est ton origine? Ça devient compliqué. Donc on ne peut pas être originaire d'un gymnase. C'est compliqué.
Bon, alors il y a des questions de l'autre côté de la salle, côté gauche.
Moi, ma migration, effectivement, je l'ai faite en tant que coopérante. Donc, je suis arrivée au Sénégal jeune et c'était par curiosité que j'étais au Sénégal. Et en fait, effectivement, j'ai vite compris que j'étais une nantie. Mais ça ne m'a pas du tout changé quoi que ce soit dans ma façon de découvrir un nouveau pays. J'y suis restée 11 ans. J'étais dans un lycée. Je repense à Dama parce que mes élèves, c'était un peu comme tu es. Hein. C'était... Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ils parlaient un français extraordinaire. J'étais professeure de littérature, de lettres classiques. J'ai appris le latin aussi à certains élèves. C'était à l'époque de Senghor. Et en fait, ils avaient un français tellement plus riche que le français de France que quand je suis revenue plusieurs années après que je me suis retrouvée à la Payade, donc je pense à José, eh bien je suis devenue professeure de français langue étrangère parce qu'on n'avait plus absolument rien à se dire si on n'avait pas les mêmes codes. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai eu une expérience par rapport au français tellement diversifiée, tellement enrichissante, que je suis contente d'avoir formé des étudiants sénégalais, qui d'ailleurs ont certainement eu un parcours international. J'en ai pas suivi suffisamment pour le savoir. Et que je suis très contente d'avoir découvert la Payade, où j'ai passé 11 ans, parce que je me suis régalée avec 19 nationalités différentes. Au début, les collègues envoyaient leurs enfants dans nos classes. Et puis à la fin, les enfants des collègues partaient. Et on s'est retrouvés aussi avec des problèmes du quartier. Mais c'était super. Vraiment, c'est mes meilleures années d'enseignement en France. Je les ai passées à la Payade.
Avec M. Nigoul, c'était...
Oui, c'est ça.
Avec Nigoul.
Oui, c'est ça.
Ah, d'accord. Très bien. Ça marche.
Voilà.
Je connais très bien.
Maintenant, il donne des cours à...
Il est à la retraite.
Oui, mais il donne encore des cours de latin, je crois, à l'UTT. Non, comment ça s'appelle? Ali...
À l'ISP.
Oui, c'est ça.
Ouais, d'accord.
C'est ça.
Merci.
Alors moi, j'étais vraiment intéressé par... Et puis, je me suis rendu compte... Bon, je suis là un peu par hasard. Mais... Je me suis rendu compte en écoutant que je remplissais plein de cases. Moi, j'ai vécu à Paris toute mon enfance. Ma mère était des Antilles, mon père était un on va dire, un Français qui avait fait la guerre d'Espagne. À 20 ans, je me suis retrouvé au Congo, au Brazzaville, coopérant. Lorsque j'ai eu 37 ans, je menais quelques combats avec l'administration, je me suis retrouvé aux Antilles. Et puis j'ai pris conscience, j'ai été proche de Glissant, j'ai connu Aimé Césaire. J'ai fait 6 ans aux Antilles. Et quand je suis revenu, je suis rentré à la CIMADE. Ça fait 31 ans que je suis à la CIMADE. Et puis, je suis rentré à la CIMADE. En fait, ma culture, je me sens assez proche de toi. C'est une culture vraiment littéraire, passion du 18e, surtout des Lumières, un peu d'avant. Et puis, de Proust, de Céline, que je tiens pour grand maître du siècle qui nous a précédés. Et puis il y a une chose qui m'a mené à la CIMADE, c'est la conscience que la chance que j'avais eue, moi pendant toute ma scolarité en France, j'ai jamais été en classe avec un petit noir. Il n'y avait que des blancs. J'ai 77 ans, je suis né en 47, donc je suis un vieux bonhomme. Et puis au fil du temps, il y a quelque chose qui s'est imposé à moi, c'était une forme de solidarité par rapport aux Noirs que je voyais ici, et qui galéraient. Et parfois, quand je demande, je suis à la CIMADE, et puis je suis aussi dans des collectifs migrants, et quand je demandais parfois à des jeunes, mais pourquoi il n'y a pas de Noirs assez qui viennent au contact aussi à la CIMADE. Moi, j'en connais pas beaucoup. Je pouvais être à peu près presque le seul. Hein, depuis. Et dans les collectifs, il y a non plus. Et je crois que c'est... Il y a quelque chose. Parce que on est forcément... On plaide toujours pour notre chapelle. Moi, ma mère, comme elle était des Antilles, elle me disait quand j'étais petit, tu dois être fier parce que la Martinique est française avant la Corse et la Savoie. Et l'impératrice Joséphine était martiniquaise. Et elle pensait que qu'elle était, que c'était une fierté pour les Antilles. Hein. Et bien sûr, elle ignorait et le code noir et la réalité présente des béquets aujourd'hui. Non, mais c'était assez terrible.
Oui, hein, c'est intéressant.
Voilà. Et donc, en écoutant les diverses interventions et divers parcours, ce que je disais là, j'ai l'impression de remplir toutes les cases, mais je crois vraiment que quand on a la conscience de ce que fut ce qu'est cette douleur des gars qui se retrouvent dans des petites tentes, qui se retrouvent à faire des... C'est assez terrible et ça nous donne moi, je sais que c'est une évidence d'être aux côtés de ceux qui sont sans papier, comme les camarades de la CIMADE accompagnent. Je pense que j'étais aussi à Survivre-France, qui est un groupe qui essaie de faire comprendre depuis Verschaff hein, tout ce que la France-Afrique a généré et génère encore d'exploitation, de souffrance, de complexe. C'est dur d'être fils de Cham.
C'est bien l'évocation. En tout cas, je vous remercie de vos différents témoignages. Attends, il y a Marie-Claude qui voudrait dire quelque chose.
Voilà, moi, c'est un peu une anecdote, mais enfin, pour moi, c'est une réflexion. Je vais raconter l'histoire. Bon, d'abord, je vais au Burkina depuis bientôt 30 ans, n'est-ce pas, Irénée ? Et c'est vrai que quand je vais là-bas, je me sens vraiment bien. Je ne suis pas du tout ni coopérante, ni expatriée. C'est de ma propre volonté que je vais là-bas et je collabore avec des associations là-bas où on essaye de se rendre utile, comme ici. Et je me sens très bien là-bas et j'ai comme une famille là-bas, je vis vraiment, voilà. Et puis ça m'arrive quelquefois de rentrer dans un espace où peut-être il n'y a jamais eu beaucoup de blancs qui sont rentrés. Au début on me regarde et puis au bout d'un moment, voilà, c'est fini, etc. Et un jour est arrivée une amie, enfin c'est devenu une amie, elle était venue pour des problèmes de santé du Burkina, donc, et on me l'avait recommandé pour que, voilà, parce qu'on lui avait parlé de moi en disant, voilà, que je connaissais bien le Burkina et tout ça, et donc on a correspondu par téléphone et on n'arrivait pas à se croiser. Et ça a duré plusieurs mois. Et un jour, les Burkinabés organisent une fête et on lui dit, ben Marie-Claude, elle va venir. Alors elle était toute contente, elle me guettait. Et quand je suis arrivée, elle s'attendait à voir une noire. Donc, elle était très, très, très étonnée. On en a reparlé il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'elle me dit, tu te rappelles? Et elle disait à tout le monde, oui, j'étais persuadée que Marie-Claude était noire. Alors, ça pose effectivement le problème pour moi de la langue, de l'accent, de l'intégration et de l'assimilation. Voilà, simplement, ça peut exister. Je l'ai vécu, je le vis. Voilà.
Bon, merci Marie-Claude, ton témoignage. L'intérêt de ce genre de rencontre, c'était pour nous en tout cas, quand on fait le choix du thème, c'était de donner la parole à des gens comme José, sacrée histoire, à des gens comme le futur anthropologue. Et parce que dans une cité, je pense, comme disait Platon, parler c'est opiner. Il fallait donner la parole à ces gens-là pour qu'ils nous disent leur histoire, parce qu'on ne la savait pas avant d'arriver dans cette salle. Et en disant eux-mêmes leur histoire, vous en apprenez un peu sur eux, davantage sur eux, et vous arrivez à les situer désormais. Dans quelle case? Dans la République de Platon, on peut mettre José, et on peut mettre l'anthropologue. Et c'était ça l'enjeu. C'est ça qui était intéressant, donc je me réjouis que vous ayez participé activement à cet échange-là. Comme quoi, des fois, c'est un sujet difficile, on peut l'aborder autrement. Il y a beaucoup d'humour, pourtant le sujet est grave. Et on s'y attendait un peu, mais avec la dextérité de José, qui maîtrise la langue française comme mieux que beaucoup. Et puis, l'histoire narrative de l'anthropologue nous a emmenés à porter notre regard sur les migrants et leur citoyenneté des migrants. Ils n'aiment pas le mot migrant, je le comprends. Mais moi, c'est des choses qui me font sourire, tout simplement. Parce que c'est des étiquettes. Et on sait la valeur d'une étiquette. C'est comme un cliché en instant T. Mais on ne peut pas garder une étiquette toute sa vie.
Sauf que l'étiquette pour les Africains est permanente.
Oui. Mais quelque part, c'est aux autres de faire l'effort que dans cette étiquette-là. Il faut découvrir les hommes, les individus, les citoyens au quotidien. On a tous eu des voisins, vous avez eu des voisins africains, etc. Ils sont autre chose que les apprêts que vous pouvez y en avoir avant de les rencontrer. Donc, je me félicite beaucoup de la présence de la CIMAD et de l'intervenant de l'autre côté de la CIMAD, le troisième qui est sorti. Heureusement que ces structures existent. Heureusement qu'elles existent. Lui, il ne savait pas. Ça fait 10 ans qu'il est là. Il ne savait pas qu'elles existaient. José a dit entre-temps que vous n'avez pas répondu. Donc, vous êtes à la fois coupable et puis... Pas totalement responsable. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Mais tout ça pour dire que c'est ça la société, en fait. Et vraiment, d'ailleurs, le public a l'image. Hein, curieusement, il y a plus de blancs, entre guillemets, que de noirs. C'est que le sujet vous intéresse, vous passionne. Et puis, vous n'êtes pas venu que pour ce sujet-là, parce que vous voyez ces gens-là au quotidien, dans votre vie quotidienne. Donc, c'est un très beau sujet. Est-ce que José aurait-il quelque chose à rajouter?
Moi, j'ai rien à rajouter. Juste merci de nous avoir écoutés. C'est assez émouvant. Et puis, c'est pas évident d'être là. Hein. Alors, moi, je suis très bon avec mes élèves. Quand je suis en face de mes élèves, je suis le roi. Mais là, devant les adultes, j'ai un problème sérieux. C'est peut-être pour ça que j'ai été admissible 2 fois à l'agrégation. J'ai jamais été admis parce que le jury me fait peur. Voilà. Donc, si le jury était des enfants, je pense que j'aurais déjà été agrégé. Voilà. Merci.
Ok. Alors Adama, la même question ?
Moi, j'ai plus de questions. J'ai eu beaucoup de réponses dans le public. Le public avait beaucoup de ressources aussi. C'est ce qui m'a plu, parce qu'il y a eu des interventions qui nous rejoignaient. Certains aussi qui avaient pu illustrer et nous partager leurs récits en miniature. Mais c'était très bien. Merci d'être venu. Moi, c'est vraiment un cadre que j'aime beaucoup. Mieux que José, je suis habitué à beaucoup parler. Mes ancêtres m'ont transmis cela. J'ai eu cette chance. Au moins, j'ai quelque chose.
D'accord.
Donc et voilà, et merci beaucoup.
Ah, ben merci à tout le monde, c'était super d'échanger comme ça.
Oui, je me filme. Bon, d'accord, ok. Vas-y.
Voilà, donc pour vous rappeler que ce sera... Oui.
Juste, vous avez dit que c'était le sort réservé aux Africains. Mais je pense qu'aujourd'hui, parce que se pose le problème des migrations, entre guillemets, accrues en provenance de l'Afrique, mais je pense que c'est le sort réservé à tous les étrangers. Par exemple, récemment, il y a eu un documentaire sur Arte, « Je ne suis pas un Shintok », c'est-à-dire l'étiquette se conserve.
Bien sûr, oui.
Et le racisme anti-maghrébin, enfin, voilà. Et même les Italiens qui ont été massacrés à Aigues-Mortes. La seule chose, c'est que quand on est italien, espagnol ou allemand, au bout d'un certain temps, il n'y a plus d'étiquette parce
mais je pense
les blancs se font. Voilà.
Il faut dire qu'il y a eu un Italien qui a tué quand même le président de la République.
Oui.
Donc, qui a tué Sadi Carnot quand même. Donc, Oui.
Oui, donc pour rappeler que ça, c'est organisé par la radio FM+. Nous animons avec Jérémy une émission hebdomadaire qui s'appelle « L'Afrique dans tous ses états ». Vous pouvez regarder les podcasts sur le site de la radio. Et cette rencontre sera mixée par nos techniciens là-bas et retransmise. Je pense que ça fera au moins trois émissions, je pense au moins, de l'Afrique dans tous ses états. Donc vous pourrez réentendre ça. Et voilà, et c'est grâce à FM+. Et nous en sommes à notre 7e Gazette Africa. Là, c'est dommage, il a manqué Mohamed, enfin, il a manqué des gens, justement, des Africains que nous avons reçus, qui ont aussi une histoire, un parcours extraordinaire. Et là, on est en préparation du 8e. Voilà. Donc, Jérémy, on a du boulot. Merci en tout cas d'être venu.
Voilà, merci à tous. À ce stade, on remercie tout le monde d'avoir consacré une heure et demie à venir nous écouter. On compte sur vous pour les prochaines éditions. Sur d'autres sujets. En tout cas, merci, passez un bon week-end et à bientôt.
Au revoir.
Minagi, sweet, sweet, sweet. Bye.